Merci d'écouter RFI. 9h en temps universel, il est 10h ici à Paris.
Arthur Ponchelet.
À la une ce matin, plus de 700 morts et 2800 blessés en RDC. Le gouvernement fournit un bilan des combats à Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, où la situation humanitaire est catastrophique, des cadavres jonchent encore les rues. Reprise des négociations attendues demain entre Israël et le Hamas. Il doit être question de la deuxième phase de l'accord de trêve à Gaza. Hier, un nouvel échange d'otages et de prisonniers a eu lieu. On est à Tel Aviv dans un instant. Au sommaire également, après les nouveaux droits de douane américain, la réponse du Mexique, de la Chine et du Canada. Et puis se dirige-t-on vers une purge au sein du FBI? Selon les médias américains, la Maison-Blanche s'apprête à licencier des dizaines d'agents ayant participé aux enquêtes contre Donald Trump. On démarre donc ce journal à Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Quelques jours après la fin des combats qui opposent les militaires congolais et leurs alliés au M23 soutenu par le Rwanda, des corps sont encore visibles dans certaines parties de la ville. Hier, le gouvernement a dévoilé un bilan, près de 800 morts seulement dans les structures de santé. La capacité des morgues est largement dépassée, dit le ministre de la Santé. Sur place, les équipes de la Croix-Rouge sont à pied d'œuvre pour ramasser les dernières dépouilles qui jonchent encore les rues. Paul Lorgerie.
Un corps vêtu d'un treillis gît sur la route de l'aéroport de Goma, les portes de la structure aéroportuaire franchie. Une odeur nauséabonde accueille le visiteur. Certaines personnes présentes se bouchent le nez. Parés de leurs équipements de protection, les agents de la Croix-Rouge déposent 4 corps dans des véhicules. Un autre reste à la vue de tous. Micheline, une voisine, s'en plaint et craint que les dépouilles deviennent un problème.
Nous sommes en train d'observer comment la Croix-Rouge travaille. L'odeur nous dérange et nous demandons aux autorités de nous aider à chercher ces corps. Car nous allons chercher de l'eau au niveau de la police des frontières, mais avec les corps, nous avons peur de tomber malade. Il faut les enlever pour sauver nos vies.
Camarade Faustin du quartier Boudjovou, qui jouxte l'aéroport, espère, lui, une forte mobilisation dans les zones proches de la frontière avec le Rwanda.
Il y a des corps à l'aéroport, il y a des corps acquis ici, mais également à la frontière. Plusieurs corps se trouvent encore dans les guérites qui étaient occupées par les militaires. L'odeur devient de plus en plus forte et des fois, certaines personnes peinent à rentrer chez elles à cause de cela.
Selon le dernier rapport des autorités sanitaires du Nord Kivu et de l'OMS, la capacité d'accueil des morgues de Goma a largement été dépassée.
Pendant ce temps, à Kinshasa, une vaste opération de don du sang a été lancée avec des tentes installées devant le palais du peuple. Objectif, obtenir 5000 poches de sang pour venir en aide aux militaires qui se battent dans l'est du pays. Les négociations doivent reprendre demain entre Israël et le Hamas. Discussion autour de la deuxième phase de l'accord de trêve. Hier, 3 otages israéliens ont été libérés en échange de 182 détenus palestiniens et un égyptien. Le point de passage de Rafah a aussi été rouvert pour laisser passer 50 malades gazaouis vers l'Égypte. En Israël, on continue à scruter les libérations d'otages de très près. Reportage à Tel Aviv de nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Nicolas Benita.
Avec sa longue barbe blanche, son éternel t-shirt noir, Dani Miran, 79 ans, est une figure bien connue des Israéliens. Il vient sur la place des otages tous les jours et assiste à chaque libération retransmise sur écran géant.
Avec les autres familles d'otages, on est devenu une grande famille. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait des enfants de ma propre famille qui étaient de retour.
Dani Miran est lui-même père d'un otage, Omri, 47 ans, toujours détenu à Gaza. Son nom ne figure pas sur la liste des 33 personnes libérables dans la première phase de l'accord entre Israël et le Hamas.
Mon fils habitait à Nahal Oz. C'est un simple civil qui s'est fait kidnapper dans sa maison devant les yeux de sa femme et de ses deux fils. Eux n'ont pas été enlevés, ils sont dans un autre kibboutz maintenant. J'ai eu des nouvelles de mon fils 2 fois. Lorsque les premiers otages sont revenus... Pardon. Quelqu'un m'a dit avoir vu Omri bien portant. La deuxième fois, c'était le 27 avril, quand le Hamas a publié une vidéo de lui. Je garde foi, je pense qu'il reviendra vivant, en bonne santé et en entier.
Dani Miran dit tenir grâce au soutien des Israéliens qui continuent de se mobiliser pour réclamer le retour de tous les otages. Muriel Paradon, Nicolas Benita, Tel Aviv, RFI.
La situation en Israël et à Gaza et cette déclaration hier des chefs de la diplomatie de 5 pays arabes. L'Égypte, la Jordanie, les Émirats, l'Arabie Saoudite et le Qatar s'opposent à tout déplacement forcé de Palestiniens. Référence aux propos de Donald Trump, le président américain a suggéré de transférer les Gazaouis vers la Jordanie et l'Égypte. Les États-Unis qui ont mené des frappes aériennes contre l'État islamique en Somalie hier. Donald Trump affirme qu'elles ont tué de nombreux terroristes sans porter atteinte aux civils. Le gouvernement du Puntland dit ce matin que les bombardements ont tué des figures clés du mouvement. 9h50 temps universel, il l'avait promis, il l'a fait. Donald Trump a signé hier le décret imposant des droits de douane à ses partenaires commerciaux entre 10 et 25% de taxes en plus dès mardi pour la Chine, le Mexique et le Canada. Tous ont réagi ce matin promettant des mesures miroirs. Pékin va même saisir l'Organisation mondiale du commerce. Il n'y a pas de vainqueur dans une guerre commerciale, prévient la Chine. Le président colombien, lui, hausse le ton contre son homologue américain. Hier, le président Gustavo Petro l'a accusé de défendre une thèse fasciste en criminalisant les migrants. Il se dit prêt à prendre en charge le coût du rapatriement des Colombiens expulsés des États-Unis. Correspondance à Bogota de Marie-Ève de Teuf.
Pour Gustavo Petro, la dignité des migrants ne se négocie pas. Il y a une semaine exactement, le président colombien interdisait l'atterrissage de 2 avions militaires américains chargés de migrants. Colère de Trump, la menace de représailles commerciales disproportionnées a fait céder la Colombie, qui a accueilli la semaine passée des centaines de migrants renvoyés en avion civil et sans menottes. Petro y tient. Des milliers de Colombiens devraient être expulsés dans les semaines qui viennent. Bogota a proposé d'assumer le coût de leur retour par voie aérienne ou maritime. Interrogé sur le financement de la proposition, Petro a répondu « La dignité humaine n'a pas de prix ». Le président Petro, qui n'entend pas baisser le ton devant Donald Trump, a ajouté, je cite, « la criminalisation d'un groupe de population pour obtenir les applaudissements d'une majorité est exactement la même que celle utilisée par Hitler envers les Juifs ». Fin de citation. L'opposition colombienne accuse Petro de provoquer inutilement Washington à des fins de politique intérieure, mais beaucoup en Colombie et en Amérique latine applaudissent. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Et c'est dans ce contexte que Marco Rubio est arrivé il y a quelques heures au Panama. Le nouveau secrétaire d'État américain va s'entretenir avec le président, José Raúl Mourinho, et se rendre sur le canal de Panama, objet de discorde entre les deux pays. Donald Trump a promis de reprendre le contrôle de ce carrefour maritime stratégique. Le président américain qui pourrait bien licencier des dizaines d'agents du FBI qui ont participé aux enquêtes contre lui. C'est en tout cas ce que disent plusieurs médias américains. Ils parlent d'une purge en préparation à la police fédérale américaine. RFI New York, Karine Houghton.
L'évaluation serait en cours et la Maison-Blanche prévoirait de licencier plusieurs dizaines de policiers qui ont enquêté sur l'assaut du Capitole. Pour CNN, le choix a déjà été donné à au moins 6 hauts responsables du FBI de prendre leur retraite, démissionner ou être virés d'ici lundi demain. 20 chefs de bureau du FBI, dont ceux de Miami et Washington, seraient menacés aussi. Le Washington Post va plus loin et pense que potentiellement des centaines d'agents du FBI seront visés. Le quotidien rappelle qu'une trentaine de procureurs fédéraux ayant travaillé sur le même dossier ont déjà été limogés et le ministère de la Justice a renvoyé aussi cette semaine plusieurs fonctionnaires qui ont joué un rôle dans les poursuites contre Donald Trump. Cette purge au FBI et dans le secteur de la justice n'est pas sans inquiéter les démocrates quant à l'intégrité du futur bureau et du futur ministère. L'association des agents du FBI a condamné aussi cette épuration. Elle estime que cela affaiblira la sécurité nationale tout entière. Karine Houghton, New York, RFI.
Et s'il est Républicains assoient donc leur pouvoir à Washington. Côté démocrate, on cherche encore une stratégie face à Donald Trump. Le parti s'est choisi un nouveau chef. Hier, Ken Martin, 51 ans, issu de courants progressistes. Jusque-là, il était président du parti dans le Minnesota. Objectif des démocrates avec cette nomination, ne pas se cacher jusqu'à la prochaine élection, mais aussi séduire un électorat plus modeste et ouvrier. Un mot de football avant de refermer ce journal. Et la déception hier pour le Real Madrid, défaite 1-0 face à l'Espagnol, l'Atlético. Et lui est venu à bout de Majorque, 2-0, à suivre aujourd'hui. aujourd'hui, FC Barcelone contre Alavés, c'est à 13h temps universel. Manchester City reçoit Arsenal à 16h30 temps universel. Les Sky Blues, futur adversaire du Real en Ligue des Champions. Tout de suite, c'est Grand Reportage sur RFI.